Christiane Campagna, dont vous entendez la voix est chevronnée en histoire. Et aujourd'hui, on parle de Lewis et Clark. Je présume deux noms de famille?
Oui, je vais vous dire leur prénom un peu plus loin. Meriwether, si vous cherchez un prénom pour vos garçons. Bon, longtemps, les colonies anglaises d'Amérique sont confinées à la côte est américaine. À l'époque que nous, on identifiait à l'époque de la Nouvelle-France. Pendant ce temps-là, justement, les explorateurs français, aidés par la Grande Paix de Montréal, dont j'avais parlé il y a quelques semaines, explorent l'intérieur du continent. À la veille de la conquête, les Français sont peu nombreux, mais sont partout, alors que les Anglais sont très, très nombreux et ont des colonies tournées vers l'Atlantique, un peu bloquées par les Appalaches. Au début du 19e siècle, la situation a changé. La Grande-Bretagne a conquis la Nouvelle-France et l'Acadie, qui sont donc désormais britanniques. Mais les colonies de la côte est américaine sont devenues les États-Unis.
Ouais.
C'est un pays indépendant. Bon, on commence un petit peu à aller vers l'ouest. On fonde les États du Kentucky, de l'Indiana et du Tennessee. Et l'expédition de Lewis and Clark, qui va suivre l'achat de la Louisiane, dont je vais vous parler dans un instant, est au fond le premier épisode de ce qu'on va appeler la conquête de l'Ouest.
OK.
Alors, en 1803, l'exploration du continent est rendue grosso modo aux Rocheuses. C'est-à-dire que la côte ouest, la côte du Pacifique a été explorée, mais par la mer, par de l'autre côté. Les Espagnols, les Russes et les Britanniques, ils font du commerce de la fourrure, font déjà du commerce avec la Chine, d'ailleurs.
Donc, les Britanniques connaissaient et le Pacifique et l'Atlantique?
Oui.
OK.
On connaît tout, mais... ce qu'on n'a toujours pas trouvé, c'est un bon passage intérieur.
Ouais.
La frontière à traverser, d'ailleurs en anglais, on l'appelle parfois « the Great Divide », ce sont les Rocheuses, qu'à l'époque, les Amérindiens appelaient aussi les montagnes luisantes. Les fils de la Vérendrye se sont rendus aux Rocheuses sous régime français, mais ne les ont pas franchis.
À quelle hauteur?
Ce serait grosso modo... je pense que l'endroit serait aux États-Unis aujourd'hui, mais il faudrait que je revérifie. Mais ce qu'on cherche, c'est un passage efficace entre les deux océans, entre autres pour favoriser le commerce de la fourrure. En 1793, il y a Alexander Mackenzie, un Écossais de Montréal, qui fait du commerce de la fourrure, qui réussit à traverser les Rocheuses et à se rendre jusqu'à l'océan Pacifique. Il se rend à un endroit qu'on appelle Bella Coola. Mais chez les gens qui l'ont envoyé là, qui sont des commerçants, lui avait vraiment une mission commerciale, on est très peu enthousiaste parce qu'il s'est rendu au Pacifique grâce à un très long portage. Alors, ce n'est pas une voie efficace maritime qu'il a trouvée. Donc, on n'est pas très content de sa découverte. Par contre, la publication de son journal de voyage dans les milieux plus érudits va avoir beaucoup de succès. Et parmi les personnes qui vont lire ça, il y a le futur président Jefferson.
Mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que souvent, aujourd'hui, on a tendance à rechercher l'exploit. Hein, que ce soit bon, le plus long, le plus loin, le premier arrivé à... Et lorsqu'on parle de trouver la route vers le Pacifique, c'était vraiment côté affaires. Le gars arrive au Pacifique, mais on est déçu, c'est trop long.
Oui, parce que son voyage avait été financé par des marchands de fourrure.
J'aime ça.
Parce que même sous le régime français, on va voir on va pas le voir aujourd'hui, mais en fait, j'ai pu le constater dans des lectures dernièrement. La France payait pas les voyages d'exploration. Il fallait qu'elle s'autofinance par le commerce de la fourrure. C'était la philosophie de Colbert.
Mm-hmm.
Alors, un point commun entre le voyage de Mackenzie et celui que feront Lewis and Clark, c'est l'importance des canoteurs et interprètes canadiens, français et métis et des guides amérindiens qu'on recrute en cours de route. Sans eux, tous ces exploits-là sont impossibles. Maintenant, j'en arrive à cette fameuse Louisiane qui vous intrigue.
Absolument.
Il faut clarifier justement ce qu'on entend par Louisiane quand on parle de l'achat de la Louisiane. C'est quand on achète la Louisiane en 1803, on double le territoire américain à ce moment-là. Donc, c'est tout le bassin ouest du Mississippi. C'est plein d'États américains. Alors, j'avais une carte puis je ne l'ai pas amenée. Je voulais vous nommer les États qui, aujourd'hui qui en feraient partie. Mais ça vraiment, on double le territoire.
Okay.
Donc, c'est tout ce qui est le bassin hydrographique à l'ouest des États-Unis.
Mm-hmm.
Puis la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que ce territoire-là n'avait pas été cédé à l'Angleterre à la fin de la guerre de 7 ans, quand la France a perdu avec le traité de Paris.
Ouais.
C'est parce que un an plus tôt, en 1762, par le traité de Fontainebleau, la France avait secrètement cédé ce territoire à son allié, l'Espagne. Et là, l'Espagne ne devait pas les mêmes choses à l'Angleterre et n'a pas été obligée de donner ça.
OK, mais comment se fait-il? OK, donc entre 1762 et 1803, de toute évidence, l'Espagne a quoi, rétrocéder à la France?
Oui, en 1800, okay. L'Espagne redonne le territoire à la France. Ça aussi, c'est des tractations compliquées. Là. On est maintenant à l'époque des guerres napoléoniennes. Il y a toute de la géopolitique qui se joue en Europe. Et là, l'Espagne redonne ça à Napoléon, qui, bon, au début est intéressé, mais se rend bien compte qu'il n'a ni le temps, l'énergie, les troupes pour défendre ce territoire en Amérique, alors qu'il a besoin d'argent pour financer les guerres qu'il a déjà entrepris. Et c'est là qu'il propose aux États-Unis d'acheter la Louisiane. Ça coûtera 15 millions, soit 3 sous de l'acre. Les historiens disent parfois que c'était une aubaine, mais il reste que pour la jeune République qu'étaient les États-Unis, c'était s'endetter considérablement d'acheter ces territoires-là. Et c'est là que l'expédition de Lewis et Clark prend son importance parce que les envoyer découvrir le potentiel de ce territoire-là pour le président Jefferson, c'est une manière de montrer qu'il n'a pas acheté ça pour rien, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, entre autres en découvrant, on l'espère, cette meilleure route qui va relier l'Atlantique et le Pacifique et qui va favoriser le commerce de la fourrure. Le commerce de la fourrure, c'est pas propre au Canada, c'est toute l'Amérique. Ouais. On fait du commerce de la fourrure jusqu'au Mexique à l'époque.
Est-ce que nos deux oiseaux ont été mandatés ou ce sont des explorateurs qui ont fait ça un peu à leur compte et peut-être, si on trouve quelque chose, ensuite, on revend notre découverte au gouvernement?
Non, ils sont vraiment mandatés okay. par le gouvernement et c'est ce qui fait la particularité de cette expédition-là et ce qui fait qu'elle est davantage passée à l'histoire que les voyages d'Alexander Mackenzie, ce qui fait penser souvent à beaucoup d'Américains que Meriwether Lewis et William Clark ont été les premiers à franchir toute l'Amérique. On parle au nord du Mexique quand on parle de cet exploit-là. Alors que c'est Mackenzie qui l'avait fait avant. Ouais. Mais c'est que leur mandat est officiel, justement. Ils sont pas juste envoyés là par une compagnie. Et beaucoup plus large. Au fond, il est triple. Il y a de découvrir ce fameux passage par le Pacifique pour favoriser le commerce. Il y a d'annoncer à tous les habitants du territoire qui sont désormais des sujets des États-Unis d'Amérique. Okay. Il y a des histoires de drapeaux là-dedans.
Mon Dieu,
il y a des
25
cérémonies.
Ans déjà que c'est signé. 1776, bon, la bagarre, puis ensuite...
Non, c'est des habitants du nouveau territoire qu'on vient d'acheter.
Ah oui, c'est vrai, on vient de l'acheter en 1803.
Il y a du monde qui...
Ça faisait pas partie des États-Unis, ça,
voilà.
encore.
Voilà, il y a du okay. monde qui habite là-dessus. Peu d'anglophones, surtout des francophones, des métis, des Amérindiens, mais on veut quand même leur annoncer qu'ils ont un nouveau gouvernement.
Oui.
Surtout que ça s'est passé vite, là. Espagne, mm-hmm. Espagne, France... Et ouais. au point où, à Saint-Louis, où la majorité de la population est francophone, on va demander que quand même, pour quelques heures, il y ait le drapeau français entre celui de l'Espagne et celui des États-Unis pour qu'on se souvienne que ça a réappartenu à la France pendant
nostalgie.
Un certain temps.
Ouais.
Et il y a un mandat scientifique. Les deux hommes ont pour mission de tenir des journaux et de prendre des notes sur la cartographie, surtout les peuples qui seront rencontrés. Dans les premiers temps, des peuples ayant déjà rencontré des Blancs, à la fin, de moins en moins. Et ils prennent aussi des notes sur la faune, sur la flore. Et c'est là toute la richesse. La semaine prochaine, je vais parler davantage des retombées. Elles ne sont pas que politiques, elles ne sont pas qu'économiques. C'est toute la connaissance du continent qui a augmenté avec cette expédition.
La durée de l'entreprise en question? Ils sont partis quand?
Ah, ça dure un bon 2 ans.
2 ans.
C'est très, très long parce que l'hiver, on est souvent arrêté.
Mm-hmm.
Le départ officiel se fait en 1804 de Saint-Louis et c'est vraiment très, très long. Puis c'est ça, on doit hiverner à certains endroits parce que la route à l'époque, c'est l'eau.
Oui.
C'est là qu'est toute l'importance de ces gens qu'on recrute. À bord, il y a nos deux dirigeants, mm-hmm. des soldats américains. Un esclave noir, qui est l'esclave de Lewis Clark, qui habitait à la Nouvelle-Orléans.
Ça prend toujours une minorité visible. On avait compris ça déjà dès le départ.
Mais surtout, il y aura beaucoup, beaucoup de Canadiens français et de Métis qui serviront de rameurs, de guides, d'interprètes. En route, on recrutera, entre autres, Toussaint Charbonneau et sa femme, qui était une Shoshone, qui avait été enlevée par les Mandans. Ce qui fait qu'elle sera une interprète très, très importante. Et je vous raconterai la semaine prochaine, Sacagawea représente toute une légende aux États-Unis au point de s'être retrouvée sur de la monnaie à certaines époques.
Wow.
Et son bébé, parce qu'elle vient d'accoucher au début. Elle accouche au début de l'expédition. C'est Clark, je pense, ou Lewis qui l'accouche après lui avoir donné...
Mon Dieu, polyvalent.
Oui, vraiment. Donc, la semaine prochaine, je vais m'attarder au trajet, au fait saillant, au rôle des Canadiens et des Métis et à la fameuse légende de Sacagawea.
Là, je veux juste... Meriwether Lewis.
Oui.
C'est un homme, malgré son prénom?
Oui.
OK.
C'est le secrétaire particulier de Jefferson qui recrute Lewis Clark, qui est un ancien collègue d'armée de l'époque de la guerre d'indépendance.
OK. Bien là, on va vraiment faire un saut de 180 degrés parce qu'on va parler de robots dans une minute.